Le 10 mars dernier, la direction de la coopération internationale monégasque et la Chambre de développement économique de Monaco ont rassemblé une quarantaine d'entreprises monégasques qui travaillent avec le continent africain pour faire le point sur les projets lancés par la commission de partenariat public-privé. À cette occasion, la coopération monégasque, le Crédit foncier de Monaco et la fondation Grameen Crédit Agricole de Mohamed Younous ont signé un accord de partenariat. En quoi consiste-t-il? Réponse de Jean-Luc Perron, le délégué général de la Fondation Grameen Crédit Agricole, à Noël Fantoni.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel est l'accord tripartite que vous allez signer cet après-midi?
Oui, donc c'est un accord qui a pour vocation essentiellement de mettre en commun les moyens d'assistance technique de la Fondation Grameen Crédit Agricole que je dirige, l'expertise du Crédit foncier de Monaco, qui est la principale banque monégasque, et les moyens de la direction de la coopération internationale de Monaco. Concrètement, ça veut dire quoi? Nous avons, nous, en tant que fondation Grameen Crédit Agricole, pour vocation d'accompagner financièrement et techniquement des institutions de microfinance dans le monde et des projets de social business. Nous commençons à développer une activité d'assistance technique et de conseil auprès des institutions partenaires, et c'est dans le cadre de cette activité principalement que nous souhaitons pouvoir faire appel à des experts prélevés, si je puis dire, sur le personnel du Crédit foncier de Monaco, sur une base de volontariat bien sûr, pour participer à des missions d'assistance technique. Ces missions seront encadrées par la Fondation, pilotées par la Fondation bien sûr, et les frais, en dehors des personnes mises à disposition, qui, elles, restent à la charge du Crédit foncier de Monaco, les autres frais seront partagés entre la Fondation et le gouvernement monégasque.
Votre spécialité, c'est la microfinance. Est-ce que c'est une microfinance qui s'adresse plutôt au monde citadin ou au monde rural?
Donc la Fondation Grameen Crédit Agricole s'est donné un positionnement très, très précis par rapport à d'autres initiatives, fondations, fonds d'investissement qui existent dans ce domaine. Nous donnons la priorité clairement aux institutions de microfinance qui ont une vocation agricole et rurale.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples très précis de ces agissements?
Oui, je vous dirais tout d'abord que nous avons aujourd'hui approuvé 14 projets en 18 mois, dont 12 institutions de microfinance, et que si vous mettez bout à bout ensemble les emprunteurs de ces 12 institutions de microfinance, cela fait plus de 700 000 emprunteurs, dont 54% sont en Afrique subsaharienne et 62% sont en milieu rural. Et 92% sont des femmes. Donc la priorité que nous donnons au secteur rural est déjà effective dans l'activité que nous avons depuis 18 mois et nous souhaitons bien évidemment l'amplifier. Concrètement, par exemple au Mali, nous avons fait un prêt de 900 000 euros, mais nous l'avons fait en équivalent en monnaie locale, nous avons pris le risque de change, pour une institution qui s'appelle Soro Iriwazo, qui est presque entièrement agricole, qui compte 40 000 emprunteurs actifs, qui sont en fait presque à 99% des emprunteuses actives, puisque ce sont des femmes, et l'activité est presque exclusivement agricole.
Alors, ça représente un taux moyen de prêt par personne qui s'élève à combien?
Dans le cas de Soro Iriwazo dont je viens de parler, et je parle de mémoire, je crois que c'est 80 euros en moyenne, donc un montant très faible, ce qui est très indicatif, si je puis dire, du positionnement de l'institution. Nous sommes au Mali sur une autre institution, parce que, encore une fois, nous donnons la préférence au secteur rural, mais ce n'est pas une exclusivité. Il faut quand même aussi être pragmatique et répondre aux demandes d'institutions extrêmement valables qui sont développées aussi en milieu urbain. Et donc, par exemple, nous avons mis en place un prêt de 600 000 euros, mais toujours en franc CFA, pour Misélini, qui, elle, est essentiellement basée à Bamako et dans les villes au Mali. Et là, le montant moyen du prêt est plutôt de 190 euros, ce qui s'explique par la nature des activités, par le contexte plus urbain dans lequel vivent ces personnes.
Avec un taux de risque beaucoup plus faible que sur les prêts classiques?
Dans les deux cas, et c'est un critère déterminant dans nos choix, la qualité du portefeuille est très très bonne. J'ai pas les chiffres très précis en tête, mais de mémoire, en tout cas au moment où on a approuvé ces prêts, les deux institutions dont je viens de parler au Mali avaient ce qu'on appelle un portefeuille à risque, c'est-à-dire la proportion de microcrédits qui n'était pas à jour par rapport aux échéances était de l'ordre de 2%. Donc on est sur des institutions qui sont à la fois très sociales dans leur mission, mais très rigoureuses dans leur gestion. Et les deux choses sont tout à fait compatibles.
Alors donnez-nous un exemple très concret d'une activité que peut accomplir quelqu'un qui va recevoir 180 euros de prêt de votre part.
Bon, vous savez, dans ces pays, très très souvent, c'est quand même, pour le microcrédit, c'est souvent des activités commerciales. C'est typiquement, je dirais, la femme qui achète un stock de nourriture sur place et qui fait soit qui le revend au détail, soit qui le transforme, c'est une transformation sous forme de petits plats cuisinés, par exemple. Ça, c'est un exemple typique. Ou au Mali, je sais aussi que pas mal des clientes emprunteuses de Misellini sont dans des activités textiles. Ils achètent le tissu et en font donc les, j'ai oublié le terme, les DJ là-bas local, c'est pas le terme, mais etc. Avec simplement un travail de couture, de broderie, éventuellement de teinture. Et donc c'est en fait une des activités. Ces activités-là sont à révolution économique très courte entre le moment où la personne achète son stock tissu, le travail qu'elle fournit et le moment où c'est revendu. Ça peut être simplement une semaine. Et donc ça explique que le microcrédit est vraiment une aide très concrète, très effective pour ces personnes-là. C'est plus difficile, bien évidemment, en matière agricole, car à ce moment-là, la plupart des cultures sont sur des cycles économiques nettement plus longs, 4, 6 mois. Si c'est de l'élevage, ça peut être plusieurs années. Et donc là, on est réellement confronté à une difficulté. Nous n'avons pas de solution miracle, je vous l'indique dès à présent, mais on essaye de trouver des solutions pour aider des agriculteurs par des microcrédits à financer également leurs activités, malgré un cycle économique plus long et plus aléatoire.
Vous nous parliez tout à l'heure de la revalorisation du lait au Mali, vous pouvez nous expliquer ce cas de figure ?
C'était pas au Mali, non, c'était au Sénégal, mais oui, je crois que tout le monde comprendra très simplement le problème. Le Sénégal, qui est un de ses gros consommateurs de produits laitiers, je parle de la population, importe 90% du lait consommé sous forme de poudre de lait. Donc une poudre de lait qui est indexée sur les cours mondiaux, alors qu'il y a 3 millions de têtes de bétail au Sénégal. Donc il y a clairement aujourd'hui une sorte de préférence imposée ou voulue, je ne sais pas, à l'importation sur le lait au détriment de l'autonomie alimentaire du Sénégal et au détriment de l'élevage traditionnel. Nous sommes en train, nous, d'entrer au capital d'un projet exemplaire que nous qualifions de social business, c'est-à-dire une entreprise économiquement efficace, voire rentable, mais qui a une mission sociale de donner aux plus pauvres accès à des biens essentiels. Au cas particulier, il s'agit de la laiterie du Berger, qui est située à Richard Toll, dans le nord du Sénégal, près de Saint-Louis. Et cette laiterie qui a été créée il y a 4 ans par un jeune Sénégalais, vétérinaire de formation, Bagoré Batili, s'est installé donc à 6 heures de camion de Dakar, qui sont marchés pourtant de distribution, donc c'est un handicap objectif par rapport notamment à ceux qui importent de la poudre de lait et la transforment rapidement dans des usines placées à Dakar près du marché de consommation. Mais s'il a fait ce choix, c'est pour être près des éleveurs et collecter le lait d'éleveurs traditionnels, qui sont essentiellement des éleveurs peuls, dans un rayon de 40 à 50 km autour de Richard Toll. Et aujourd'hui, il y a 650 familles d'éleveurs qui reçoivent un revenu régulier grâce à cette collecte du lait. Mais c'est un véritable apostolat, car pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près de l'ordre de 1 litre de lait par jour et par vache. Évidemment, ça varie beaucoup en suivant les saisons. Mais donc il y a un coût de collecte qui est important, mais l'entreprise joue le rôle de locomotive de la filière. À partir du moment où les éleveurs ont la perspective, et la perspective durable, la laiterie elle est là pour des années, d'apporter leur lait, d'en tirer un revenu parce que ce lait est transformé en yaourt vendu dans les faubourgs de Dakar, ces éleveurs seront motivés à améliorer leurs pratiques d'élevage, à faire de la sélection animale, à faire de l'insémination artificielle, et l'ensemble des acteurs économiques seront incités à trouver des solutions pour régler le problème d'alimentation du bétail, de l'approvisionnement en eau, etc. Toute question sur laquelle nous sommes en train de réfléchir et sur laquelle j'ai bon espoir que nous ayons des projets en commun avec la coopération monégasque.
Votre but, c'est de faire du profit ?
Ah, la fondation est clairement une fondation sans but lucratif. Le choix qui a été fait par le Crédit Agricole est clairement d'apporter au travers de la microfinance, je dirais, sa contribution à la lutte contre la pauvreté et aux objectifs du millénaire à travers une initiative que je qualifierais de long terme, de désintéressée et de partenariale. mais elle est désintéressée par construction, puisque c'est une fondation de droit luxembourgeois, mais placée sous le régime de la loi de 1928 du Grand-Duché sur les associations et fondations sans but lucratif. Donc si excédent d'exploitation il y avait, il serait automatiquement recyclé au sein de la fondation, notamment pour financer des activités d'assistance technique pour les institutions de microfinance.